Cette semaine, on était dans Ésaïe pour le jeudi soir. Alors, c'est un gros livre, hein, beaucoup de choses à voir. On l'a même pas effleuré, mais un petit peu présenté. Et moi, je me suis arrêté personnellement sur un chapitre très très connu, peut-être un des plus connus, avec, il y en a encore un ou deux comme ça. Ésaïe 55. Et puis, j'aimerais en lire quelques passages. Alors. Donc à partir du verset 1, je vais lire, et puis c'est dans la traduction du Semeur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. On va manger ensemble à midi, alors c'est pour nous mettre. Hein, tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Et puis je saute au verset 8. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Point. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi sans à vide, sans avoir accompli ce que je désire, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et j'ai passé un petit peu de temps à réfléchir à ces choses-là. Et puis vous savez qu'en ce moment, à Paris, il y a cette conférence sur le climat, là, hein, cette espèce de gros bazar, là. Et puis, c'est triste parce que c'est vrai qu'en tout cas pour les grosses têtes qui y sont, leur but c'est juste gagner un peu plus d'argent, voir comment l'écologie peut relancer l'économie. Ils sont pas là par amour de la création, hein. Mais n'empêche que la question qui est posée, elle est pertinente. Et puis, c'est vrai qu'à cette occasion, on voit encore plus, et c'est une bonne chose, des reportages, des films intéressants sur l'état catastrophique dans lequel on est arrivé à mettre une chose parfaite que Dieu nous avait confiée. On a fait fort quand même, hein. On a utilisé tout le peu d'intelligence qu'on avait à détruire des choses qui fonctionnaient bien, quoi. C'est au point que ça pourrait même nous détruire tellement qu'on est doué, quoi. C'est assez effrayant. Et je trouve que ce chapitre, Ésaïe 55, je dirais, il nous parle d'écologie spirituelle, hein. Et pas que spirituel, mais c'est un tout, hein. Rappelez-vous, Dieu, il n'a pas une intelligence pour les choses spirituelles, et puis après, dans le monde physique, il a d'autres principes, et puis après, il y aurait encore autre chose pour je sais pas trop quoi. Dieu est Dieu, ses pensées sont ses pensées, elles transparaissent dans tout ce qu'il a fait. Le monde spirituel, le monde physique, la nature, ce qu'on appelle la nature, hein. La création, l'univers, toutes ces choses-là ont le même concepteur, la même intelligence, il y a une harmonie, il y a une unité, c'est tout la même chose. Donc quel que soit le bout par lequel on prend ce que Dieu a fait, on arrive toujours aux mêmes choses. Ce que Dieu pense dans un domaine, ça fonctionne aussi dans l'autre. Il faut juste transposer un petit peu. Et ce chapitre 55 d'Ésaïe, il est magnifique là-dessus. Et puis, c'est aussi un résumé extraordinaire de tout l'enseignement des évangiles, hein, avec l'annonce de la grâce de Dieu qui est là. Alors, ça commence avec « Vous tous qui avez soif, venez hein, ». C'est le point de départ. Et donc, on peut se dire « Ouais, ceux qui n'ont pas soif, ils ne viennent pas, quoi ». C'est simple. Hein. Et puis, vous connaissez ce proverbe. Alors, je vais insulter personne ce matin, mais c'est juste un proverbe qui dit « On ne fait pas boire l'âne qui n'a pas soif. Hein. » Le point de départ, il est là dans nos vies. Hein. Est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai pas soif? Alors, en réalité, on a tous soif. Hein. Quand on n'a plus soif, c'est-à-dire quand on désire plus rien, c'est soit qu'on est plus vivant, soit qu'on est malade. Et là, je plaisante pas, c'est une maladie. Hein. Perte complète de désir, c'est une maladie grave. Mais sinon, si on est vivant et à peu près en bonne santé, on a soif. Le problème, c'est que on est tellement habitué à boire n'importe quoi qu'on ressent pas la soif de ce qu'il nous faudrait vraiment. Hein. On voit ça de façon dramatique et illustrée aujourd'hui avec les enfants ou s'il y a personne à la maison et puis pas d'éducation, qui peuvent vivre en buvant que des sodas, par exemple. Hein. Alors, ils n'ont pas soif. Ils ne vont pas mourir de soif. Ils vont mourir d'autre chose. Hein. D'une cirrhose du foie, d'abus de sucre, d'obésité. Ils ne vont pas mourir de soif. Hein. C'est pareil dans nos vies intérieures. On n'a pas soif, pourquoi ? Parce que justement, tout est fait pour qu'on boive toute la journée, pleine de saleté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on ne ressente pas la soif première, essentielle, qui est cette soif que Dieu a voulu mettre en nous comme une des choses qui nous attire à lui. Hein. Dans le monde physique, dans la création, Dieu a toujours fait que ce qui était important pour que la vie continue, soit liée à un attrait. Hein. Pourquoi on est tellement attiré par les personnes de l'autre sexe ? Pourquoi les fleurs avec les mailles ? Pourquoi les abeilles avec... Il y a un attrait, mais derrière cette chose-là, il y a la vie. Hein. Et Dieu a mélangé ces choses-là pour que ça fonctionne. C'était pareil pour nous. Même si, alors effectivement, nous, on va voir que l'être humain est une exception dans la création, et puis une exception qui a mal tourné. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, vous qui avez soif, venez. Hein, c'est le point de départ. Faire face à la soif. Et ça, je le dis souvent, samedi dernier, quand je parlais avec ce groupe de jeunes-là, je leur disais, vous savez ce que c'est l'acte le plus courageux et le plus héroïque qu'un être humain puisse faire dans sa vie ? Alors, ils m'ont trouvé plein de choses géniales, quoi. Hein. Puis chaque fois, je disais non, 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 ils cherchaient encore plus compliqué. J'ai dit, c'est rester silencieux et tranquille et faire face au vide qui est en nous. Il n'y a rien de plus compliqué, de plus difficile et de plus courageux pour un être humain. Aller combattre des dragons avec un couteau suisse, c'est rien, c'est la blague. Hein. Traverser la mer à la nage, c'est rien, c'est facile. Hein. Etc., etc. Mais s'arrêter dans le silence, prendre du temps d'affronter le vide qui est en nous, sans utiliser de subterfuges, sans allumer de télé, sans mettre le casque sur les oreilles, sans faire du bruit, sans bouger, sans regarder des sens, sans faire 10 choses en même temps, juste s'arrêter, faire silence, rester tranquille, essayez 3 minutes, c'est terrible. Vous avez l'impression que ces 3 minutes sont plus longues que le reste de votre vie. C'est terrifiant. Juste faire face au vide qui est en nous. Hein. Mais normalement, c'était un besoin vital qui, devant ce vide-là, l'âme de l'homme devait se tourner et dire « Je meurs de soif, où c'est qu'il y a à boire ?» hein. Et là, Dieu dit ben, « Vous savez quoi ? Ce qui est extraordinaire, c'est que la raison pour laquelle j'ai créé la soif, c'est parce que l'eau existe. Hein. Toujours, toujours. Tous les besoins que Dieu a mis en nous, c'est pour nous permettre de découvrir la réponse à ce besoin. Pourquoi nous sommes tous désespérément à la recherche d'être aimés ? Parce que Dieu a voulu que nous soyons comme ça. Ce n'est pas une conséquence du péché. Avant la chute, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme, c'est l'espèce humaine, ce n'est pas que l'homme ou que la femme. Dieu a voulu qu'on ait soif d'être aimé. Pourquoi ? Parce que l'amour existe. Pourquoi il nous a mis des papilles gustatives dans la bouche ? Parce que le goût existe. Pourquoi il nous a donné des yeux qui voient les couleurs ? Parce que les couleurs existent. Pourquoi il nous a rendus capables de discerner ce qui est beau ? Parce que la beauté existe. Pourquoi il nous a donné des oreilles pour entendre ? Parce que le son, les notes, la musique, la voix existent, etc., etc. Pourquoi il nous a donné des cordes vocales ? Parce que la parole existe. Pourquoi il nous a donné un petit cerveau ? Ça, on se demande. Mais parce que penser existe, hein ? Parce qu'on a été créé à son image. Donc la soif, elle a pour but de nous faire « Ah, j'ai soif, qu'est-ce que je pourrais boire ?» Et là, on se jette sur le premier truc bourré de sucre, d'alcool, de machin, de saleté, de colorant. Là. Et puis on dit, j'ai plus soif, mais il m'en faut encore. Et puis on se détruit le corps. Et puis après, on se dit, maintenant, il faut boire des médicaments parce que ce que j'ai bu là a fait que j'ai des maladies. Alors je vais boire. Et puis, vous n'avez jamais pensé à l'eau? Vous savez que ça se boit, l'eau. Et bon, il y a des gens qui ne savent même pas qu'on peut se laver avec. Mais en plus, on peut le boire. Non, si, si. Spirituellement, c'est la même chose. Dieu voulait qu'on ait soif. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui est la source d'eau vive. Alors, je ne vais pas vous lire tous les textes, il y en a plein dans l'Ancien Testament et plein dans le Nouveau Testament. Bien sûr, Jésus a dit « Je suis la source d'eau vive, mais vous puiserez avec joie à la source du salut, etc. etc. » Donc, vous tous qui avez soif, venez. Et puis, il enchaîne, parce que bon, l'eau, ce n'est pas assez festif quand même. C'est bien, mais il y a d'autres bons produits qu'on peut boire quand même. Vous-même qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Ah, déjà, on peut faire du fromage avec le lait, le vin, ouais, il y a des fruits, il y a plein d'autres choses. Mais venez, mais pourquoi il y a cette répétition, venez, et cet apparent paradoxe, parce que acheter et sans argent, ça ne va pas ensemble. Si on nous fait un cadeau, on ne dit pas qu'on l'a acheté, on l'a reçu, quoi. Mais acheter et sans argent, et puis c'est répété, c'est quoi cette histoire, quoi ? C'est tout simplement une magnifique parabole sur la grâce de Dieu. Venez chercher ce qui peut satisfaire les besoins que j'ai mis en vous, et venez les recevoir et ne venez pas les mériter, ne venez pas les payer. Ni les payer pour les avoir, ni les rembourser une fois que vous les avez eus. Vous savez comment on est, les cadeaux, oui, mais bon, si on m'a fait un cadeau, je réfléchis qu'il ne faut pas que j'oublie de faire un cadeau à celui qui m'a fait un cadeau après. C'est quand même, il faut un certain équilibre. C'est gratuit, mais voilà. Et non, là, c'est réellement gratuit. Et Dieu dit, vous avez soif? Bien, venez, mangez, buvez, prenez. Et puis, après ça continue, il parlait de, vous vous délecterez d'aliments savoureux. C'est-à-dire que tous les besoins qui sont en nous, Dieu a prévu ce qu'il fallait pour qu'ils soient non seulement satisfaits, mais en plus que ça permette à la vie de continuer. Et c'est pour ça que dans le même chapitre, un peu plus loin, on a donc c'est aussi une parabole ou une image magnifique avec la parole de Dieu qui est comparée à l'eau qui tombe du ciel et puis au cycle de la pluie, Carmen nous pourrait, je suis sûr qu'elle a des super schémas là-dessus, elle pourrait nous montrer ça, j'ai pas eu le temps de demander. Comment là, l'évaporation, et puis ça recommence, et les fleuves, les rivières, et puis tout le travail que ça fait. Tout dans la création fonctionne parfaitement, à part l'être humain. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'être humain sur Terre, la planète irait très bien, on le sait. Parce que tout a sa place. Et puis, alors vous allez dire c'est facile pour eux. L'abeille ne se demande pas si elle va aller sur la fleur, elle y va parce qu'elle a été programmée pour ça. Les animaux se reproduisent, la photosynthèse se fait très bien. Tout se fait comme ça et chaque chose sans le savoir. Quand l'abeille va butiner, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de polliniser la fleur qui va faire que machin, que l'arbre. Là. Quand la feuille de l'arbre tombe après avoir été verte, vert foncé, puis rouge, puis jaune, qu'elle tombe et qu'elle pourrit, elle ne sait pas qu'elle va nourrir l'arbre qui va venir après. Mais tout a été calculé avec une intelligence extraordinaire pour que tout fonctionne tout le temps. Et que même ce que nous on appelle la mort, ce n'est pas du tout la mort lorsqu'une feuille tombe, elle produit ce qu'il faut pour que la vie continue. Donc ce que Dieu a fait, c'est absolument magnifique, extraordinaire. C'est pour ça que étudier la biologie, la science, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, ces choses-là, c'est étudier les œuvres de Dieu. Et personnellement, c'est ce qui me pousse le plus à la louange. Quand j'ai envie de louer Dieu, je me mets, s'il est bien fait, un reportage sur la nature, quoi que ce soit la vie des fourmis, la vie amoureuse des escargots, la reproduction des chênes truffiers. Au bout d'un moment, je suis en train de louer Dieu parce que je me dis, c'est extraordinaire, quoi. Et vous savez que mon morceau de louange préféré, c'est la marche de l'empereur, avec ces espèces de bestioles qui s'en vont, qui reviennent, il y a l'œuf sur les pattes, avec les veines qui descendent autour des pattes pour chauffer, pour que le pied reste à zéro, pas en dessous. C'est impensable, on ne peut pas créer un truc pareil, quoi. Notre Dieu l'a fait. L'être humain, il est à part parce qu'il a été prévu pour s'insérer dans cette magnifique création, hein, au départ. Pour en prendre soin, l'administrer, la gérer, être là, surtout en profiter et y vivre dedans, hein, c'est ce qui était prévu. Sauf que, contrairement à toutes les autres, à tous les autres domaines de la création, on a un petit truc en plus qui a mis pas mal la galère. Ça s'appelle le fait de pouvoir choisir. Imaginez que les abeilles, les chiens, les champignons, les feuilles d'arbres aient un libre arbitre. Vous imaginez le bazar dans la nature. Juste une feuille. C'est le printemps, la feuille naît, elle est vert tendre. Et puis il y aurait des feuilles qui diraient « Alors moi, le vert foncé, ça ne me va absolument pas. Je vais rester ce vert-là toute ma vie. » Puis la feuille, « Non, moi je préfère le rouge ou le jaune. » Mais bien sûr, il n'y a aucune feuille qui veut tomber pourrir, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? La vie va s'arrêter. Parce que si les feuilles ne tombent pas et ne font pas de l'humus, ça ne va pas marcher. Les abeilles qui disent « Alors moi, toutes ces heures à travailler, là, franchement, il n'y a pas un endroit où on peut trouver du sucre déjà tout fait. Est-ce qu'il y a pas de... Ça serait le bazar complet, il n'y a rien qui fonctionnerait. Hein. Mais tout le reste a été programmé, ils n'ont pas le choix. On appelle ça l'instinct de survie, on appelle ça dame nature. Alors c'est assez rigolo, les gens qui ne pensent pas qu'il y a une intelligence derrière l'univers, de voir les périphrases ridicules qu'ils doivent faire pour expliquer les choses. Hein. La nature a bien fait les choses. C'est qui la nature? Les gens, rencontrez-vous? Enfin bon, passons, ce n'est pas le sujet. Mais c'est comique, je trouve, dans les reportages. Quoi, hein. Ah, le hasard a vraiment bien l'évolution, le tout. L'intelligence, vous savez, ça m'a fait bon. Voilà. Donc, à part les humains, tout fonctionne comme ça et c'est toujours des cycles. Hein. Une chose vient avec du temps, avec un départ, et puis ça se reproduit, ça se multiplie, ça vit, tout fonctionne comme ça. Et puis, il y a l'être humain qui devait lui aussi fonctionner comme ça, sauf que lui, il décide. À chaque instant, il choisit, oui, je m'insère dans le cycle de vie que Dieu a prévu pour moi, ou non. Hein. Et bien sûr, première intersection, il a dit non. Ça n'a pas été loin, hein. Ça n'a pas traîné. Hein. Il n'y a pas eu 10 choix à faire. Hein. Le premier, moi je pense que je suis plus intelligent que toi et que si je vais là-bas, ça va être mieux que là. Voilà, bon, Dieu le savait, il n'était pas pris au dépourvu. Hein, mais... Et depuis, on n'a pas arrêté de mettre le bazar. Quoi. Bon, voilà. C'est pour ça que si on veut... avoir une vie spirituelle qui fasse plaisir à Dieu. Hein. Demandez à tous les chrétiens évangéliques, c'est quoi le premier but d'un chrétien dans la vie? Glorifier Dieu. Ah, tous, on connaît la réponse. Hein. Ça veut dire quoi glorifier Dieu? Ah ben aller à l'église le dimanche matin, lire sa Bible, prier, être honnête. Être... Ça glorifie Dieu qu'on soit ici ce matin? Franchement, en quoi ça glorifie Dieu qu'on soit ici ce matin? Si on n'a pas compris pourquoi on était ici ce matin. On doit comprendre les choses. C'est la nature, elle fonctionne toute seule. Mais vu que nous avons ce petit truc en plus, petit truc qui n'est pas rien, je décide si je me mets dans le plan de Dieu ou pas. Mais si je ne le connais pas, si je ne le comprends pas, hier soir, un peu tard dans la nuit, là, j'ai eu une discussion sur Facebook avec un ami pasteur qui avait mis un post sur Facebook, et puis je n'étais pas tout à fait d'accord avec son truc. On s'est mis à chatter, et puis on a dit, il fallait quand même qu'on allait dormir. Mais lui, il ne prêchait pas aujourd'hui, donc. Hein? Mais je disais, c'est triste parce que les gens qui sont censés passer plus de temps à étudier, réfléchir à ce sujet, on dirait qu'ils font tout ce qu'il faut pour maintenir, excusez-moi, je dis ce terme en me moquant, hein, le peuple dans l'ignorance. On dit ce qu'il faut faire, mais on n'explique pas pourquoi. Hein. Imaginez que vous n'avez aucune éducation au niveau nutrition, ces choses-là, et puis vous êtes malade. Vous allez chez le docteur, il s'aperçoit, vous avez 2 tonnes de diabète, 2 tonnes de cholestérol, il n'y a rien qui va. Mais sans rien vous expliquer, il vous dit, bon maintenant, mangez plus de sucre, plus de charcuterie, plus de saucisses, plus de fromage. Plus de... D'abord, vous allez trouver que le gars, il a envie de vous torturer. Ça va être horrible. Si vous êtes un peu maso et très discipliné, vous allez le faire, et effectivement, peut-être vous allez être mieux, quoi. Mais ça n'a pas de sens. Hein. Pour que vous le fassiez intelligemment, il faut qu'on vous explique. Parce qu'après, vous pouvez inventer plein de trucs. Ouais, alors c'est parce qu'il y a des petits démons dans la viande de cochon qui font que... Non, non, c'est juste que le gras fait ça et que le sucre fait ça. Il faut comprendre. Ah oui, mais ça prend du temps. Ben oui, ça prend du temps, mais le temps, c'est la vraie richesse dans le monde où on vit. Hein. Si on ne décide pas en tant que croyant de comprendre pourquoi on fait les choses, même quand on va faire ce qu'il faut, ça ne va pas être efficace. Pas vraiment, parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Pourquoi on est là ce matin? Vous savez que j'en parle souvent. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Moi, je sais pourquoi je suis là. Pas parce que je suis payé pour être là, même si c'est vrai. Pas parce que j'ai lu quelque part que les chrétiens dimanche matin devaient se retrouver. C'est écrit nulle part d'ailleurs. Je suis là parce que j'ai compris que pour que la vie de Dieu grandisse en moi, j'avais besoin de nutriments spirituels, j'avais besoin de soleil, d'eau, etc. Et que être avec vous, ça fait ce travail-là. Que réfléchir à ce que Dieu dit, ça fait ce travail-là. Qu'écouter ce que d'autres ont vécu avec Dieu, ça fait ce travail-là. Donc, je fais le choix de me mettre là où il faut. Le grain de blé, il n'a pas à réfléchir. S'il y a la température, s'il y a l'humidité, il pousse. D'accord ? Nous, si on était des graines de blé, hein, c'est nous qui décidons du thermostat. C'est nous qui décidons du taux d'humidité. On ne choisit pas nos vies, bien sûr, mais on choisit ce qu'on fait avec, nos réactions, où on va. Ce qu'on, hein. Mais si le grain de blé ne sait pas qu'il faut une certaine température et une certaine humidité pour qu'il, malheureusement, pour qu'il meure, mais pour qu'après il vive, bah, il peut passer sa vie à se dire oh, « j'aimerais tellement me multiplier, faire plein d'autres petits grains, pousser, ça ne marche pas. » Puis il vit toujours à moins 5 degrés avec un climat très sec et puis il ne se passe rien. Ou à plus de 40 degrés sans eau, il ne se passe rien non plus. Hein. Il faut qu'on lui explique, écoute, petit grain de blé, tu vois, pour que tu pousses, parce que tu as été fait comme ça. Il faut que tu trouves de la terre, il faut qu'il n'y ait pas trop de... Le pH soit équilibré, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ce taux d'humidité, il faut qu'il y ait cette température-là. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Si tu es au bon endroit avec ce qu'il faut autour, tu vas rien faire. Parce que Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu meures et que tu vives et que tu te multiplies et que ça pousse. Parce que la parole de Dieu qui est envoyée ne revient jamais à lui sans avoir fait ce qu'elle devait faire. Sauf pour l'être humain, qu'il accepte ou qu'il le refuse. Mais pour accepter ou refuser, il faut d'abord savoir. Et donc c'est de là que vient une des légendes et des mythes qu'il y a dans le christianisme, qu'il faut aller à l'église écouter la parole de Dieu. Bon, c'est plein d'âneries dans cette phrase. On ne peut pas aller à l'église, nous sommes l'église. On va éventuellement dans un bâtiment où des gens qui forment l'église se retrouvent. Hein. Ensuite, c'est vrai que normalement, un des rôles des gens qui ont ce don de Dieu, on va dire, c'est d'expliquer les choses pour que les gens comprennent et que le petit grain de blé se dise « j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, ouais, j'ai envie de prendre un coup d'humidité ce matin. » Puis j'aimerais bien rajuster la température. Alors pour ça, il faut, puis il y a plusieurs possibilités, et l'une d'entre elles, c'était d'être là ce matin. Mais si je n'ai pas compris ça, soit je ne viens pas, je me sens coupable, je viens pour des mauvaises raisons, ou je viens, il ne se passe rien. On ne sait pas ce qu'on fait. Hein. C'est comme si, voilà, vous êtes malade, vous allez voir le médecin, et puis il vous dit, il faut faire un régime. C'est quoi un régime ? Faut manger plus, faut manger moins, plus salé, moins sucré, plus sucré, mais non, il faut comprendre ce qui se passe. Hein. Et reprendre la place dans le cycle que Dieu a prévu. Et là-dedans, une chose essentielle, c'est qu'il ne faut pas travailler, il faut vivre. Imaginez l'herbe qui se dirait, il faut que je pousse pour que les nuages soient contents et qu'ils m'envoient de l'eau. Non. C'est parce qu'il pleut que l'herbe pousse. Hein. Le blé qui dit « si je mûris, le soleil sera content, il va me réchauffer. » Eh non, c'est parce que le soleil chauffe que le blé mûrit. Hein. C'est pas à nous d'inventer les choses. Le problème, c'est que on ne veut pas savoir, on fait les choses à l'envers, et comme elles ne se passent pas, ben, on essaie... Hein. Dieu a inventé la vie, les hommes ont inventé la mécanique, excusez-moi... Les gens qui aiment la mécanique, hein. C'est beau aussi, mais la mécanique, c'est pas vivant. Il faut sans arrêt dépenser de l'énergie pour que ça fonctionne, la mécanique. Et puis, on n'a jamais encore existé, enfin, corrigez-moi ceux qui savent, hein. Je ne crois pas qu'il y ait de système mécanique qui s'auto-alimente et qui dure toujours et qui ne consomme rien, quoi. Il faut consommer de l'énergie. Alors que la vie, oui, elle consomme de l'énergie, mais elle produit et puis ça tourne. Ouais. L'exemple est limité parce qu'effectivement, à un moment, on consomme des choses quand même aussi. Hein, mais vous voyez la différence entre l'énergie qu'il faut pour faire tourner une machine et puis un arbre qui pousse, un enfant qui grandit, etc., etc. Tout ce qui est vivant. Hein. Mais comme on a perdu la connaissance de la façon dont Dieu fonctionne, qui est toujours dans la grâce, et que ça ne fonctionne pas, alors les églises ont des programmes, des activités, des tableaux, des comités, des machins. Et il en faut un minimum, parce qu'on vit dans une société qui fonctionne comme ça, et on peut l'utiliser, il n'y a rien de mal avec ça. Hein. On peut faire pousser du blé en le plantant avec une machine, ça pousse aussi bien qu'en le plantant à la main, etc. C'est pas qu'on est contre le progrès, l'intelligence, l'organisation. Mais il faut juste que l'organisation, le progrès, le mécanisme soit au service de la vie et pas à la place de la vie. Est-ce qu'on est là pour que l'enfant mange, soit éduqué et grandisse, ou est-ce qu'on est là pour faire des marionnettes? Ah, il manque une ficelle, parce que s'il y avait une ficelle, il pourrait en plus faire ça. Ah, mais si on mettait une ficelle de plus, il pourrait faire ça. Ah, mais si on mettait une ficelle au genou, il pourrait faire ça. Et puis si on inventait un petit mécanisme qui ferait qu'on n'aurait plus besoin de ficelle. Oh, hein, on a fait des progrès. Au Moyen-Âge, dans les églises, ils faisaient bouger les gens avec des fils. Maintenant, on a une commande, là, il n'y a pas de fil. Oh, c'est vachement mieux. Non, le mieux, c'est un enfant qui vit. Hein. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Et c'est pour ça que je parlais d'écologie spirituelle. On a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, c'est tout simple. Je dois faire face à la soif qui est en moi. Accepter de ne pas vite me précipiter sur le réfrigérateur pour ouvrir une bouteille de coca, de machin, de trucs. Hein. Juste, ok, j'ai soif. Et je vais prendre ces quelques minutes pour dire à Dieu, j'ai soif. Et Dieu va me donner à boire. Et ça va être très difficile parce que, mais Seigneur, j'ai rien pour payer. Je ne te demande pas de payer, je te demande de vivre. Tu as soif? Bois. J'ai faim? Mange. Un être vivant qui a ce qu'il lui faut au niveau nutritif et à tout niveau, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est vivant, il vit. Donc, il bouge, il se déplace, il fait des choses. Il a des, si c'est un être vivant, il a des enfants. Si c'est une plante, elle fait. Il fait ce pour quoi il a été prévu par Dieu. Donc, ce n'est pas le fait que. Parce qu'on dit, ouais, mais si on prêche la grâce, alors les gens, ils font rien. Oui, normalement, ils ne vont rien faire que Dieu ne veuille pas qu'ils fassent. Et puis, ils ne vont pas travailler. Quand on est épuisé dans nos vies chrétiennes, c'est qu'il y a un souci. Dans la mécanique, il faut toujours mettre de l'huile ou un truc pour pas que ça chauffe quelque part, quoi. Hein. Il faut refroidir, il faut lubrifier, il faut. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. Et excusez-moi, ce matin c'est la fête des mécaniciens. Mais ce que Dieu a fait, ça fonctionne bien. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Pourquoi c'est tellement pénible de lire sa Bible? Parce qu'on ne sait pas pourquoi on la lit. Pourquoi c'est tellement compliqué de s'engager pour faire ci, pour faire ça? Parce qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu faisait avec ça. Et puis, il y a un élément essentiel, incompressible, c'est le temps. Dieu a voulu qu'entre une saison et une autre, il y ait un certain nombre de temps. Puis nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est tellement malin qu'on peut supprimer le temps. Et puis, j'avais ressorti mon vieil exemple pour les jeunes la semaine dernière. Vous savez, quand on propose au petit prince cette pilule pour boire, il prend une pilule une fois par semaine, il n'a plus besoin de boire. Et puis il dit, mais à quoi ça sert? On a calculé qu'en faisant ça, on économisait 53 minutes par semaine. Waouh! Et le petit prince dit, moi, si j'avais 53 minutes, je marcherais doucement vers une fontaine. Ah, il avait compris. Hein, on pense qu'on peut gagner du temps, parce que ça se fait tout seul, ça va plus vite. Pourquoi en faire? Pour être malade après, pour ça. Hein. Ouais, c'est super, maintenant, le travail se fait tout seul, on n'a plus besoin de le faire nous. Et du coup, on va dans une salle où ça pue, tirer sur des cordes pour soulever du poids qui ne sert à rien. C'est idiot, je le fais aussi. Hein. Je le fais aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est stupide. Parce qu'au lieu de marcher, d'entretenir le jardin que Dieu nous avait donné, de faire ce qu'il fallait, on est assis sur des chaises et on pense qu'on est intelligent parce que j'appuie sur un bouton et ça se fait tout seul. Et puis après, j'ai passé 2 heures à produire de l'énergie qui se perd, qui ne sert à rien, juste pour être en bonne santé. Ça, c'est l'être humain. On est vraiment intelligent. Hein ? Waouh ! Et on fait ça dans tous les domaines. On dépense des millions pour produire des médicaments dont on n'aurait pas besoin si on mangeait correctement, etc. etc. Alors, il y a des gens qui savent ça, qui en profitent, hein, bien sûr. C'est le but pour eux. Mais spirituellement, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui veuillent en profiter. Il y a quelques méchants, effectivement, mais la plupart du temps, c'est juste qu'on n'a pas compris. Et puis qu'on a peur de comprendre. Parce que ça veut dire qu'on va... Ouf. C'est plus la faute de l'église, du pasteur, de la société, de si je porte pas du fruit, si je pousse pas, si je... C'est juste, c'est moi qui dois accepter la soif, aller à Dieu, et puis lui laisser le temps de faire les choses. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image avec le petit arbre sur le rocher. Hein. Mais je sais pas combien de temps il lui a fallu pour pousser, mais il a dû falloir un certain temps. Parce que à cette taille-là, dans ce milieu-là, hein, il était sûrement très très vieux, quoi. Il n'y a pas de raccourci au temps. Je suis très encouragé en ce moment de voir des choses dans des situations que je pensais qu'ils ne pourraient jamais changer, qui changent. Puis on n'a rien fait. Hein. Enfin, moi, je n'ai rien fait de plus ou de moins. Dieu a pris le temps de le faire et puis les choses étaient au bon endroit, au bon moment, avec ce qu'il fallait. Alors je veux juste vous encourager à avoir cette réflexion et puis... à toujours essayer de comprendre pourquoi on fait les choses, demander à Dieu de nous expliquer, chercher ensemble. On est là pour ça, c'est ça l'Église. On m'a dit qu'il fallait faire ça, je ne sais pas pourquoi, et toi tu comprends, mais moi pas trop, mais peut-être qu'à 10 qui ne comprennent pas trop, on va comprendre un petit peu. Hein? Et puis on va s'aider comme ça, et on va donner du sens à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on vit. On va prendre le temps, on va devenir courageux, affronter le vide, affronter la soif, et laisser Dieu nous donner ce qui est bon, et puis on va être surpris, on va être en bonne santé, jusqu'au jour où on va quitter cette terre, parce que c'est naturel, comme les feuilles qui tombent de l'arbre, parce qu'il y a encore autre chose de meilleur après, c'est pas la fin, c'est pas le désespoir, c'est pas tragique, c'est juste le cycle de la vie qui continue un peu plus loin. Hein. Et puis on va beaucoup mieux vivre. Alors Seigneur, merci pour ce que tu fais, pour le monde merveilleux que tu avais prévu pour nous. On te demande pardon pour l'état dans lequel on l'a mis. Et on te prie que tu nous donnes l'intelligence de, tant qu'on peut, en prendre soin. Mais aussi qu'on puisse comprendre les cycles de vie que tu as prévus pour nos vies spirituelles, pour nos êtres intérieurs, pour nos âmes. Donne-nous cette compréhension, cette intelligence. Ouvre les yeux de notre cœur. Et puis qu'on puisse comprendre que c'est gratuit, parce que tu as payé pour ça. Qu'il faut juste venir à toi et recevoir et le laisser agir. Merci de faire ce travail dans nos vies, merci de faire ce travail dans notre communauté, de faire ce travail tout autour de nous, partout. Et on te glorifie parce que comme on l'a chanté ce matin, tu n'as pas dit ton dernier mot et tu nous aimes. Amen.